Seigneur, veuillez vous rasseoir. Nous allons demeurer dans cette attitude de recueillement alors que nous nous apprêtons à recevoir sa parole. Nous sommes devant celui qui est assis sur son trône et qui règne au siècle des siècles. Et nous voulons profiter de l'occasion pour lui tendre une oreille attentive afin qu'il nous parle, afin qu'il dépose dans nos cœurs ce qui vient de son cœur, afin que par sa parole, il puisse se révéler à chacun de nous. Après ce moment, Seigneur, qui nous ont permis de nous tourner vers toi pour t'apporter notre louange et notre adoration, après ce moment, Seigneur, où, avec humilité, avec tremblement, avec crainte, mais aussi avec assurance, nous nous sommes jetés à tes pieds pour implorer ta grâce, pour t'exprimer les sentiments de nos cœurs, pour te faire connaître, Seigneur, nos besoins. Oui, après ce moment où, ô Dieu, notre louange est montée vers toi comme du parfum des bonnes odeurs, oui, après ce moment merveilleux, nous voulons nous asseoir très humblement, Seigneur, à tes pieds et te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Nous voulons mieux te connaître, Seigneur, et expérimenter ensuite ta puissance. Tu nous as laissé ta parole, tu nous as laissé les Saintes Écritures afin que par elles, nous puissions, Seigneur, te connaître, mais aussi au-delà, après cette connaissance, expérimenter ta puissance. Que nous ne nous contentions pas simplement d'une certaine connaissance théorique, cérébrale, Seigneur intellectuel, mais qu'au-delà de cette compréhension par le Saint-Esprit, qu'au-delà de cette compréhension des Saintes Écritures, Seigneur, que nous puissions prendre le chemin qui conduit à l'expérimentation de ta puissance. Nous voulons, Seigneur, être métamorphosés à ton image. Nous voulons, Seigneur, aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, et cela n'est possible, Seigneur, que si nous croissons dans ta connaissance, et si nous demeurons dans ta puissance. Les deux sont intimement liés. Voilà pourquoi, Seigneur, avant d'écouter ta parole, nous te prions, ô Dieu, de nous aider à la comprendre. Nous te prions que par ton esprit, tu puisses déposer cette parole dans nos cœurs. Et qu'en même temps, par ton esprit, tu assistes ton serviteur, Seigneur, chargé de partager cette parole à ton peuple, à ces âmes pour lesquelles tu es mort, à ces brebis, ô Dieu, qui t'appartiennent et qui ont du prix à tes yeux. Oui, ces brebis ont droit à un repas qui vient tout droit d'en haut, ont droit, Seigneur, à une nourriture digne de toi. Alors donne-nous de la servir, cette nourriture, par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, acclamons le nom du Seigneur et sa parole. Au risque de fatiguer certains, j'aimerais revenir une fois de plus sur ce thème qui nous accompagne depuis de nombreuses semaines. Et je bénis Dieu pour tout ce que nous avons appris par et au travers de ce thème. Il va donc être question une fois de plus de l'importance vitale, de la nécessité, mes amis, de connaître la parole de Dieu, de connaître les Saintes Écritures dans la puissance du Saint-Esprit, et ce, dans le but d'expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, comme nous l'avons vu en plus d'une fois, le but, ce n'est pas d'acquérir un certain savoir théorique, le but, ce n'est pas d'acquérir un certain savoir théologique, mais le but, c'est de comprendre les Saintes Écritures, et que cette compréhension nous amène sur le chemin de l'expérimentation de la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Connaître les Écritures et la puissance de Dieu, sixième épisode. C'est ça, hein? Pour vous qui prenez des notes, oui. Connaître les Écritures et la puissance de Dieu. Nous allons relire une fois de plus notre texte de base. Tourner vers l'expérience des Sadducéens, ces religieux, extrêmement instruits, ces religieux qui avaient la connaissance des... qui lisaient les Saintes Écritures et qui avaient fini, hélas, par développer des doctrines qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu, tout en lisant Moïse, tout en lisant les prophètes, eh ben, ils sont arrivés à la conclusion que la résurrection n'existait pas, que les anges n'existaient pas, bref, ils sont arrivés à des aberrations. Ce manque de connaissances vraies, ce manque de connaissances véritables, les avait amenés, hélas et malheureusement, sur le chemin de l'égarement, sur le chemin de l'ignorance, de l'erreur. Vous voyez, mes amis, nous avons tout intérêt à en connaître, car en ce jour-là, nous n'aurons aucune excuse. Personne ne pourra dire, Seigneur, ce n'était pas de ma faute. Nous avons tous la parole de Dieu avec nous, la Bible, nous l'avons, nous avons l'occasion de fréquenter des églises où cette parole est enseignée dans sa vérité et proclamée dans la puissance du Saint-Esprit. C'est donc à nous de faire ce choix. Maintenant, si nous nous laissons conduire par nos émotions, par un sentimentalisme irrationnel, et allons quelque part parce que toute la famille y va, parce que le pasteur a épousé la cousine de ma tante, eh bien, nous risquerions un jour de nous retrouver sur ce chemin de l'égarement et, hélas, de pleurer, mais ça sera trop tard. Connaître les Écritures. Nous sommes dans Marc, chapitre 12, 18 à 27, et puis ensuite nous lirons dans Philippiens, chapitre 3, versets 10 à 11. Commençons avec Marc. Nous lisons les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ces gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection ne sont pas des athées, ne sont pas des païens, ne sont pas des gens qui ne connaissaient rien des Saintes Écritures. Malheureusement, c'était des gens qui avaient la parole, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vers auprès de lui, donc du Seigneur, et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. C'est donc la loi sur le Lévirat. On en a déjà parlé. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur dit, voici pourquoi vous êtes dans l'erreur, littéralement, voici pourquoi vous êtes égarés. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, eh bien, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande, votre égarement, je pourrais ajouter, votre égarement est insupportable. Et enfin, nous allons dans Philippiens, à la rencontre d'un des grands champions de la foi chrétienne, un héros formidable, un guerrier redoutable de l'Évangile. Philippiens 3, le verset 10 et le verset 11 nous dit ceci. « Mon but, dit l'apôtre Paul, est de le connaître, lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Amen. » C'est très clair, ces déclarations de l'apôtre Paul se passent de tout commentaire. Il résume un tout petit peu le but même de sa vie. Il n'a pas cherché à courir après un quelconque titre religieux. Il n'a pas cherché, mes amis, à s'enrichir en prêchant l'Évangile, mais il nous montre clairement, il nous dit clairement, eh bien, le but de sa vie, le but c'est de le connaître, lui, Jésus-Christ, et d'expérimenter sa puissance de résurrection. Amen. Gloire au Seigneur. Connaître les Saintes Écritures, afin d'expérimenter la puissance de Dieu. Eh bien, nous sommes dans ce thème depuis plusieurs dimanches. Et le dimanche dernier, nous avons vu que la Bible n'a pas été écrite dans le but de faire simplement de la théologie. Il est vrai que nous avons besoin d'élaborer des discours systématiques sur tel sujet de la Bible, sur telle personne de la Bible, sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit. C'est important de savoir tout ce que la Bible enseigne sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est important de savoir tout ce que la Bible enseigne sur la personne, mes amis, et l'œuvre de Jésus-Christ, comment Jésus a été annoncé plusieurs siècles auparavant, et comment il a été l'accomplissement des prophéties, etc. Nous avons besoin de connaître ce que la Bible a enseigné sur la doctrine du salut. Qu'est-ce que le salut, le pardon du péché, la réconciliation avec Dieu, la justice, l'enfer, Satan lui-même, les anges, qui sont-ils, etc. Donc élaborer des discours est quelque chose d'important, c'est pour nous permettre, mes amis, de comprendre. Mais nous devons savoir que cette élaboration de discours sur tel ou tel autre sujet de la Bible n'est pas le but en soi. Le but, c'est de nous amener à expérimenter par et en travers de cette connaissance la puissance de Dieu. Alléluia. Expérimenter sa puissance de salut. Voyez-vous, c'est une chose de savoir que Jésus est sauveur. C'est une chose, mes amis, de dire que Jésus est sauveur, d'apprendre à partir de la Bible qu'il est le sauveur par excellence, mais ça n'est une autre d'expérimenter sa puissance de salut. Alléluia. Donc le but, c'est de connaître, mais en même temps d'expérimenter par-delà la connaissance, sa puissance, la puissance de Dieu au niveau de la délivrance par rapport à tous ceux qui sont sous l'emprise de tel ou tel, tel autre péché ou tel autre esprit démoniaque, expérimenter sa puissance de guérison, sa puissance de restauration, enfin bref, la Bible a été écrite justement pour que, un, nous croyons que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, car toute la Bible repose sur la personne et sur l'œuvre de la croix, et qu'en croyant, nous expérimentions le salut, que nous ayons la vie, alléluia, que nous nous réconcilions avec le ciel, que nous devenions de nouvelles créatures. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de l'expérimentation de la puissance de Dieu. Eh oui. Parler de la puissance de Dieu et voir, si nous avons un peu de temps, comment l'expérimenter, quels sont les préalables, qu'est-ce qui doit être fait en amont pour qu'enfin, en aval, nous puissions expérimenter la puissance de Dieu. Lorsque l'apôtre bien-aimé, Paul, écrit aux Colossiens, à l'église de Colosse, à ses bien-aimés qui vivaient dans cette partie de l'Asie mineure, eh bien, lorsqu'il leur écrit, il les exhorte, au chapitre 1er de Colossiens, on n'a pas le temps de lire, il les exhorte, mes amis, entre autres, premièrement, à marcher d'une manière digne du Seigneur. Voyez-vous, pour lui plaire à tout point de vue. Marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue. Et puis ensuite, il poursuit en exhortant nos bien-aimés à croître dans la connaissance, c'est le verset 10 de Colossiens 1, à croître dans la connaissance et à devenir puissant à tous égards par sa force glorieuse. Alléluia. Croître dans la connaissance et devenir puissant. Expérimenter la puissance de Dieu à tous égards, et ce, par la force glorieuse de notre Dieu. Alléluia. Comprendre la puissance de Dieu. Connaître la puissance de Dieu. Expérimenter la puissance de Dieu. Voilà, mes amis, ce que Dieu attend de chacun de nous. Et comme nous l'avons vu, la connaissance de Dieu, la vraie, la scène, la connaissance dynamique par le Saint-Esprit, eh bien, est intimement liée à l'expérimentation de la puissance de Dieu. Les deux vont toujours ensemble. Voyez? C'est ainsi que quelqu'un ne peut pas dire, moi je suis chrétien de nom. Il n'y a pas de chrétien de nom. Voyez-vous? Certes, pour identifier certaines personnes, on les appelle des chrétiens de culture. Ils ont grandi dans des cultures influencées par les valeurs du christianisme, et on les appelle des chrétiens culturels. Mais un vrai chrétien, c'est celui qui a expérimenté la puissance de Dieu. Alléluia. Celui qui a reçu Jésus dans sa vie. Mais comment le recevoir si on n'a pas entendu le message de la parole, si on n'a pas compris qui il est? Excusez-moi. Connaître, comprendre, expérimenter la puissance de Dieu. Tous les héros de la foi, à travers toute l'Écriture, tous les champions de la foi que nous trouvons dans le Nouveau Testament, tous, mes amis, ont eu à expérimenter la puissance de Dieu. C'est ainsi que la parole de Dieu, dans Actes, chapitre 7, verset 22, dit à propos de Moïse que c'était un homme puissant en parole et en œuvre. Moïse était puissant en parole et en œuvre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, vous pouvez enlever. Puissant en parole, puissant en œuvre. Et aujourd'hui, nous allons parler, mes amis, de la puissance. La puissance. Voilà un mot que nous affectionnons tant. Car il y a dans le tréfonds de tout homme, ce désir, cette aspiration à être puissant. On veut être puissant sur tout le plan. Voyez-vous, être fort. Voyez-vous, fort. Car nous vivons dans des cultures, mes amis, qui exaltent la force. Et quand quelqu'un fait preuve de faiblesse, eh bien, on le méprise. Eh bien, on le met de côté. On aime des gens forts, des gens qui transpirent l'assurance, des gens qui marchent avec prestance. Voilà, des véritables coqs sur leurs ergots. Regardez ce coq dans la basse-cour, quand il marche fier, comme Artaban, hein. Et donc, imbu de lui-même, il domine dans la basse-cour sur toutes les poules, n'est-ce pas? Et voilà, notre société aime ça. Nous vivons, mes amis, une époque où la recherche de l'impuissance individuelle et même collective dresse chaque jour les hommes les uns contre les autres, et ce dans une compétition, et ce dans une lutte sans merci. Ceux qui sont dans des partis politiques comprennent mieux cela. Chacun essaie de se positionner. Oui ou non? Ah oui, on n'accepte pas que l'autre vous fasse de l'ombre. Voyez-vous? Non, je dois sortir, tu dois sortir. Je dois paraître comme étant celui qui inspire le parti, comme étant celui qui conduit le parti, l'homme fort. Eh oui, eh oui. Et dans ce contexte de recherche effrénée et à tout prix de la puissance, eh bien nous pourrions dire que lorsqu'on est faible, eh bien il y a un slogan, malheur aux faibles. Faible financièrement parlant, faible physiquement parlant, faible économiquement parlant, faible, mes amis, sur quasiment tout le plan. Et quand on est dans cette situation, aujourd'hui dans notre monde, eh bien, vous êtes malheureux, vous n'avez pas de valeur, puisqu'on met beaucoup d'accent sur la force, on met beaucoup d'accent sur le rendement, sur la productivité. On évalue les gens en fonction de ce qu'ils peuvent faire pour la société. Et c'est ainsi que ceux qui ne peuvent rien faire, parce qu'ils ont un tel ou tel autre handicap, parce qu'ils n'ont pas de moyens de pouvoir faire quoi que ce soit pour la société, Eh bien, ils sont mis à l'écart, ils sont considérés comme des parasites. Vous voyez? Parce que nous sommes dans une époque où les gens, dans une société où tout le monde court après la force, où tout le monde cherche la puissance. Regardez dans le domaine commercial, comment les grands ensembles commerciaux sont arrivés à écraser les petits commerçants. Oui ou non? Voilà. En Europe, je peux vous assurer que les petits commerçants ferment les uns après les autres. Depuis que l'Europe a découvert le système américain d'avoir des centres commerciaux, ces grands ensembles où vous trouvez tout, tout, absolument tout. À l'époque, quand on sortait, on avait besoin du pain, on allait chez le boulanger, oui ou non? On achetait du pain, quand on avait besoin de viande, on allait chez le boucher, etc. Maintenant, vous trouvez ça au même endroit. Et résultat, ben, les petits commerçants font quoi? Eh bien, ils ferment. Ils font faillite. Ils ferment. Parce que les autres sont puissants, économiquement, financièrement. Oui, dans notre monde, plus on est puissant, plus on impose sa loi. Eh oui. Regardez. Quand les États-Unis, oh la superpuissance, l'oncle Sam, quand les États-Unis, quand le Royaume-Uni et l'Union européenne, mes amis, décident, eh bien les médias dans leur ensemble parlent de la communauté internationale. Alors que ce ne sont que quelques pays. Voyez-vous, oui ou non? La communauté internationale a décidé, on n'a pas consulté le Congo, donc le Congo n'existe pas. Quand ces quelques nations occidentales parlent, eh bien c'est le monde entier qui parle. Quand elles prennent des résolutions, quand elles prennent des décisions, c'est le monde entier qui le prend. Voilà, mes amis, la triste réalité de notre monde, où les nations puissantes imposent leur diktat, leur oukaz, comme on dit. Voyez-vous? Grâce à leur puissance économique, grâce à leur puissance financière, grâce à leur puissance militaire, ils imposent leurs lois, et souvent de manière unilatérale. Et contre leurs décisions, on ne peut rien, si ce n'est dire oui, oui, amen. Même lorsque ces décisions vont à l'encontre de nos intérêts. Nous ne pouvons rien faire. Alors que sur le plan de la superficie, sur le plan du nombre d'habitants, le Congo est plus grand que la France. Il y a plus d'habitants, de population au Congo qu'en France, oui ou non? Et pourtant, c'est la voix de la France qui compte. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que ces pays sont puissants économiquement, sont puissants militairement, financièrement. Et à cause ou grâce à leur puissance socio-économique, politico-financière et militaire, l'Occident impose son diktat, son point de vue. Au point où certains d'entre nous, hélas, pensent que tout ce qui vient de l'Occident à valeur universelle. On décide que désormais, deux hommes peuvent se marier, eh bien c'est fini, parce que l'Occident a décidé qu'il en soit. Attention. Nous avons nos valeurs que nous devons absolument sauvegarder. Gloire à Dieu. Parce qu'en Occident, il y a des maisons où on jette les personnes âgées. Certaines des personnes âgées ont besoin de soins. Évidemment, on les dirige vers des maisons médicalisées, etc. Mais il y en a d'autres qui disent non, 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 non. Il n'est plus bon, hop, maison de retraite, que vous aussi, parce que ça s'est fait là-bas, au lieu de rester avec vos parents, ils disent non, 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 moi je viens d'Europe. Là-bas, on ne garde pas, non. Non. Nous avons nos valeurs. Nous avons notre âme. Nous devons veiller sur nos valeurs. Gloire à Dieu, alléluia. Oui, grâce à leur toute puissance, dans quasiment tous les domaines, Ces quelques pays dirigent le monde à la cravache, oserais-je dire. Voyez-vous, ils imposent. Voilà comment la puissance selon le monde se manifeste. Voilà comment le standard de puissance d'après le monde. Une puissance qui vampirise, qui asservit, qui maintient les autres dans un état d'esclavage. Vous voyez? Une puissance qui écrase les autres, qui domine d'une manière ou d'une façon malfaisante, malveillante, diabolique, inhumaine, maléfique, nuisible, les autres. Les autres n'ont rien à dire. Dans le concert des nations, eh bien, ce sont quelques puissances, comme on les appelle, qui décident. On a le conseil de sécurité, où vous avez quelques pays, hein, c'est tout. Hein. Parce qu'ils ont des bombes atomiques, mais la bombe atomique, ce n'est pas pour construire, c'est pour détruire. Vous voyez les standards du monde. Celui qui a le pouvoir de nuisance, celui qui a le pouvoir de détruire, celui-là est ce qui est tout le contraire, ce qui est aux antipodes de la puissance selon la parole de Dieu. Mes amis, nous devons savoir que la puissance, le pouvoir, quelle que soit sa nature, octroie une certaine grandeur, une certaine amplitude à celui ou à celle qui la possède. C'est ainsi qu'il y a des gens qui étaient humbles de nature, qui étaient bien. Mais dès lors qu'ils ont eu l'occasion d'assumer une quelconque responsabilité, dès lors qu'ils sont arrivés à occuper une certaine position qui leur accorde un peu de pouvoir, ils deviennent un peu puissants, c'est fini, ils réduisent le coup. Les autres ne comptent plus. Voyez-vous, attention. Dans cette série d'enseignements que je prépare sur l'Église, un jour je méditais, et je suis arrivé à la conclusion que l'univers de la politique est le seul qui est capable, mes amis, de transformer un agneau en prédateur. Vous savez ça? Un véritable prédateur, criminel. Alors qu'avant, il était diacre. Même pasteur. Et puis un jour, on vous informe, non, qu'il a lancé une rébellion. Un pasteur? Voilà, mes amis. Donc, puissance économique, puissance financière, militaire, religieuse, même religieuse, attention, hein. Parce que des fois, quand on parle des abus, en ce qui concerne la manière d'exercer sa puissance ou son pouvoir, on ne voit que les hommes politiques, etc. Attention, le pouvoir, même religieux, est dangereux. C'est ainsi que vous verrez certains aujourd'hui, ils se contentent plus de leur titre. Voyez-vous, avec des vêtements pompeux. Autrefois, c'était des gens simples qu'on pouvait approcher. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. J'en sais, il y a des mouvements ici où des pasteurs se battent pour devenir représentant légal et ainsi devenir autorité religieuse. Dans le même temps, ils ne prêchent plus. Ils ne se soucient plus de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils sont plus attirés par la position et les privilèges qu'octroie une telle position, celle de représentant légal, parce qu'on peut être reçu par les autorités politiques, par les autorités quelles qu'elles soient, dit je suis représentant des tels. Ah! Le pouvoir, comment religieux. Mes amis, cette sorte de puissance ou pouvoir, selon le standard de ce monde, a une conséquence terrible. C'est que cette puissance exalte le moi, surdimensionne le moi, hypertrophie le moi. Il met le moi sur un piédestal, ouvrant ainsi la porte à toutes sortes d'ambitions mondaines démesurées.
Voyez.
C'est ainsi que beaucoup finissent par attraper le syndrome qu'on appelle du bris. Voyez-vous, où ils attrapent des gros coups. Ils pensent qu'ils deviennent spéciaux, tout simplement parce qu'il est, placé à la tête de telle institution ou de quelque chose. Ça amène à une sorte d'inclinaison narcissique qui amène les gens à considérer les autres comme des gens écrasés pour la recherche de sa propre gloire. Alors que le vrai pouvoir, la vraie puissance, c'est celle qui nous met au service des autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est la puissance selon le monde. Le monde avec ses valeurs ou ses antivaleurs. Le monde avec ses principes qui sont aux antipodes des principes du royaume des cieux. Qu'en est-il de la puissance selon Dieu? Quand la Bible déclare que Moïse était un homme puissant en parole et en œuvre, qu'est-ce que le veut dire? Quid de la puissance selon les standards du royaume de Dieu? Car Dieu nous appelle à être puissants, comme je vous ai dit. Quand Paul prie, quand Paul exhorte les Colossiens, il leur demande de croître dans la connaissance et de devenir puissants à tous égards, non pas par eux-mêmes, mais par la force glorieuse du Seigneur. C'est donc dans la volonté. Mais de quelle puissance est-il question? Lorsque la parole déclare que Moïse était un homme puissant, il est évident que ce n'est pas de ce genre de puissance dont Moïse était revêtu, c'est-à-dire la puissance selon les normes du monde. Moïse n'était pas un rouleau compresseur qui, en avançant, mes amis, imposait sa force et écrasait tout sur son passage. Pas du tout. La puissance de Moïse, comme celle de tous les héros de la foi, s'exprimait, se manifestait, mes amis, dans la faiblesse. Oh, alléluia. Dans la faiblesse, il est important que nous le comprenions. Celui qui veut être grand parmi nous, eh bien, doit accepter de devenir le serviteur de tous. Ça, ce sont des principes du royaume. Voyez-vous. Or, aujourd'hui, nous voulons, le monde a ses normes, c'est normal. Voyez, dans le monde, quand on est grand, eh bien, on est assis quelque part, c'est normal. Vous êtes servi, c'est normal. Mais dans ce qui concerne l'Église, eh bien, les principes du monde ne doivent pas avoir cours, ne doivent pas servir de modèle. La puissance de Moïse, mes amis, était une puissance qui s'est manifestée, dans ses faiblesses, dans l'humilité. Regardez, face à Pharaon, Pharaon ayant une armée nombreuse et puissante, dotée de nombreux chars, Moïse n'a qu'un bâton, n'est-ce pas? Mais dans la faiblesse de ce bâton-là, se trouve la force de Dieu. Oh, alléluia! L'un a plusieurs chars, une armée aguerrie, une armée combattante, conquérante, une armée qui faisait peur. Mais l'autre n'a qu'un bâton. Et dans la faiblesse de ce bâton-là, cependant, se trouve la force de Dieu. Grâce à ce bâton, grâce à la présence du Seigneur à ses côtés, Moïse a fini par ouvrir le chemin dans la mer. Il a fini par triompher, mes amis, des chars de Pharaon et de son armée puissante. Dans Exode 14, versets 15 à 16, nous lisons ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. » Ils crient, parce que le peuple n'en peut plus. Le peuple est mis sous pression. Les Égyptiens viennent, ils arrivent avec leurs chars, avec leurs armes, déterminés à en finir, une fois pour toutes avec Israël. Et en face, mes amis, il y a la mer des Jonques. Il y a un obstacle infranchissable du point de vue humain. Que faire? L'angoisse les saisit. La panique tombe sur le peuple. Et Moïse se tourne vers le Seigneur et il crie. Et qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Celui qui dit, qui demande à Israël de se mettre en marche, sait aussi que devant eux, il y a quoi? Il y a la mer. Toi, le Seigneur ajoute, toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Gloire au Seigneur. Voilà ce que Dieu demande. Qu'as-tu dans ta main? Tu as un bâton. Quand tu es avec moi, tu n'as pas besoin de chars. Quand tu es avec moi, tu n'as pas besoin d'une armée nombreuse. Ma présence te suffit. Je vais combattre pour toi et pour mon peuple. Qu'as-tu? Je n'ai qu'un bâton. Qu'est-ce que vous voulez faire, mes amis, avec un bâton face à une armée puissante, avec des chars? Humainement parlant, c'est un... Mais pour Dieu, l'impossible n'existe pas. Alors, versets 21-22, Moïse étendit sa main sur la mer, et résultat, l'Éternel, le Seigneur, refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et une muraille à leur. Il a envoyé le vent. Le vent de Dieu a fait le reste. Sois en paix. Sois en paix. Il suffit simplement que le Seigneur souffle un peu. Ceux qui te font de l'ombre vont être emportés. Appuie-toi sur lui. Utilise le bâton de la prière et de l'intercession. Utilise le bâton du jeûne et de la prière. Utilise le bâton de la parole de Dieu. Ils viennent, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous, nous appuyons sur le Seigneur de gloire. Oh, alléluia. Mes amis, selon les critères du monde, vous avez d'un côté Pharaon. Pharaon avec une armée puissante, une armée aguerrie, mieux équipée, qui devrait, logiquement parlant, oui ou non, humainement parlant, remporter la partie, écraser Moïse avec son bâton, écraser le peuple d'Israël. Normalement, avec ses chars, avec une armée nombreuse, préparée à la guerre, Pharaon aurait pu, mes amis, gagner la bataille dans cette confrontation face à Moïse et à ce peuple, à cette bande, mes amis, d'esclaves qui n'avaient aucune culture militaire, qui ne connaissaient rien de la stratégie militaire. Oui, ils n'avaient pas d'armes, ce peuple-là. Oui, ce peuple était faible, mais dans leur faiblesse, ils vont s'appuyer sur Dieu et Dieu va leur accorder la victoire. Alléluia. Donc d'un côté, logiquement parlant, il y a Pharaon, etc., qui aurait pu pulvériser, écraser, détruire, mes amis, Moïse et le peuple d'Israël. Et puis de l'autre côté, vous avez Moïse, qui n'avait qu'un bâton, même pas un Kalachnikov. Voyez-vous? Qui n'avait qu'un bâton, avec un peuple sans aucune expérience militaire, un peuple sans armes, sans chars. Et dans ce contexte-là, logiquement parlant, humainement parlant, Moïse et le peuple auraient pu être écrasés, oui ou non? Écrasés, littéralement, par Pharaon dans cette confrontation. Mais c'est le contraire qui va se passer. C'est le faible qui triomphe du fort. Le plus faible des hommes, l'impotent, selon les critères, les lois humaines de la guerre, Le mets brisé est celui qui sort plus que vainqueur dans cette confrontation avec Pharaon. Mon frère et ma sœur, sois en paix. Quand lui est avec toi, alors la victoire est sûre. Il ne te demande pas d'aller chercher. Non, qu'as-tu? Qu'as-tu? Un bâton. Mais un bâton entre les mains du Seigneur vaut plus que toutes les bombes atomiques, plus que toutes les bombes à hydrogène que les grandes nations possèdent. Mes amis, la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Oui, la puissance de Dieu donne toute sa mesure lorsque nous sommes vraiment faibles. C'est-à-dire, en face de nous, nous ne savons quoi faire. Nous n'avons personne pour nous recommander. Nous sommes peut-être physiquement amoindris. Nous avons peut-être des limites intellectuelles. Nous n'avons pas de diplôme. Nous sommes faibles. Nous n'avons pas des moyens humains, des moyens financiers pour faire ceci ou pour faire cela. C'est là que la puissance de Dieu est appelée à se manifester. Gloire à Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a expérimenté dans sa vie et dans son ministère. Quand on regarde dans la vie de cet homme, Paul, un des hommes qui a bouleversé le destin de nations, eh bien nous voyons que cet homme a tout connu. Il a connu des moments de gloire, rappelez-vous. Le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas, alors qu'il était un juif fanatisé, intégriste, complètement obnubilé par sa religion, zélé, persécuteur de tous ceux qui se réclamaient du Christ. Et puis le Seigneur se révèle à lui. À partir de ce moment-là, eh bien cet homme va aller de gloire en gloire. Il va connaître des moments de gloire. Il va prier pour les malades et voir les malades être guéris, ressuscités, morts. Mes amis, la Bible nous dit que Dieu faisait par Paul des miracles extraordinaires. Donc il a connu des moments de gloire. Il a remporté des victoires. Oui, mais Paul, l'apôtre Paul, c'est lui qui a marqué l'histoire de l'Église. Cet homme a connu aussi des moments de faiblesse face aux outrages de ses adversaires. Cet homme a connu des privations. Comment est-ce possible? Quelqu'un soit privé de nourriture, soit privé de ceci ou de cela, alors que c'était un homme de foi, alors que c'était un homme qui était au service du roi des rois. Cet homme a connu la persécution. À plus d'une fois, il a été persécuté. Il a été jeté en prison. Oui, il a connu l'emprisonnement. Et même, il a eu à un moment des problèmes de santé physique. Lui, l'homme de foi. Oh, alléluia. Lui, l'homme de foi. Écoutez ce qu'il nous dit à propos de ses faiblesses dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. L'homme qui a reçu des visions et des révélations, il en parle au début de ce chapitre. Lisons le verset premier pour mieux comprendre. 2 Corinthiens 12, verset premier. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions. Il y a des révélations du Seigneur, tout ce qu'il avait reçu. Et puis maintenant, le verset 7. À cause de l'excellence de ces révélations, de ces visions, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour me battre, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Trois fois, il a prié, il a pleuré. Voyez-vous, et comme j'ai déjà eu à parler un tout petit peu de cette écharde, c'était un problème physique, on ne nous dit pas, mais il y a des indices à travers ses épîtres. En tout cas, une chose est sûre, ce problème physique, ce problème de santé physique, eh bien, était handicapant pour lui. Ça l'empêchait d'exercer correctement, puissamment son ministère. Il a prié. Il a dit, Seigneur, éloigne-moi cette douleur de mon corps, je n'en peux plus. Eh bien, comment le Seigneur lui a répondu? C'est pourquoi ne jugez pas. Voilà. Tel a une écharde Et tu commences à juger, frère, il faut jeûner, sœur. Il faut prendre autorité au nom de Jésus. Vous pensez que Paul n'avait pas pris l'autorité? Quand il priait là, vous pensez qu'il dansait en priant les chars? Non, il pleurait. Il pleurait. Mais le char n'est pas parti. Cette souffrance physique, voyez-vous, il y a des gens qui ont servi le Seigneur pendant des années et qui sont passés par des moments difficiles. Je me souviens de ces pasteurs, on était des invités en France dans une convention. Il est d'origine ghanéenne, il exerce un grand ministère à Londres. On nous avait logés dans le même hôtel et puis bon, on a fait connaissance et puis on a partagé. Il m'a dit, pasteur, j'ai fait 15 ans à peu près, 15 ou 16 ans, avec mon épouse sans enfant. J'ai prié pour des couples qui n'avaient pas d'enfants, Dieu les visitait. Mais quant à mon épouse et à moi, le ciel est resté fermé. Nous avons pleuré avec mon épouse. Les gens se moquaient de nous, ils n'ont pas de foi, etc. Ce n'est qu'au bout de 15 ou 16 ans, je ne me souviens plus très bien, qu'enfin le Seigneur a ouvert la porte et que l'enfant est venu. Voyez-vous? Attention. Voyez-vous? Dieu nous appelle à marcher d'une certaine manière. Nous ne nous trouvons pas tous sur la même voie. Oui, sur la voie de la vérité. Mais dans cette marche avec le Seigneur, il arrive des fois que les uns passent par des moments difficiles, etc. Nous devons le soutenir. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Paul, ma grâce te suffit. Car, écoutez la vérité, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Accepte l'humiliation, mon frère et ma sœur. C'est vrai que c'est dur. Des larmes que tu verses, accepte ça. C'est dans de tels moments et dans de telles situations que le Seigneur manifeste sa puissance. Et Paul de continuer, il ne s'est pas arrêté là. Après avoir compris, il dit, ah bon, donc cette écharde qui me fait souffrir, du point de vue de Dieu, est une bénédiction. De mon point de vue, c'est une source de souffrance. C'est un handicap. Ça me procure ou ça suscite à moi beaucoup de douleur. Mais du point de vue de Dieu, c'est une bénédiction. Parce que cette situation me maintient au pied du Seigneur à cause de l'excellence que j'ai de sa personne, à cause de toutes ces expériences que j'ai faites, des révélations qu'il m'a données, eh bien, il a trouvé bon pour me maintenir. Soit là. C'est comme Jacob, après avoir lutté avec le Seigneur, cette nuit-là, il fut frappé ici, à la hanche. Et après cette rencontre avec le Seigneur, après que le Seigneur ait changé son nom, voyez-vous, de Jacob en Israël, le lendemain matin, l'homme s'est levé pour marcher, ce n'était plus le même. C'est un homme qui boitait. Et quand tu boites, tu ne peux pas redire le coup devant quelqu'un qui est en forme. Oui ou non? Quand tu as été humilié, quand des gens à qui tu as donné cours, des gens que tu as aidés dans les rapports, arrivent par un concours de circonstances à devenir tes chefs, quelque part ça fait mal. Et tu te dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Oui, Dieu sait ce qu'il fait. Quand le temps viendra, quand le moment viendra, il n'aura pas besoin qu'un ange intervienne. Lui-même se lèvera de son trône. Je sais que mon Rédempteur est vivant. En son temps, il s'élèvera. En son temps, il étendra sa main. En son temps, il me donnera ce que je lui demande. Qu'est-ce qu'il dit? Il continue, je me glorifierai donc bien plus volontiers de quoi? De mes faiblesses. Voilà. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et il termine en disant, c'est pourquoi, après avoir compris, la seule manière pour expérimenter la puissance du Christ, la seule manière pour que la puissance du Christ repose sur lui, était qu'il demeure dans cette situation de faiblesse, où il devait peut-être beaucoup prier pour que le Seigneur lui donne ne serait-ce que la force de se tenir devant les gens et de leur parler. Voyez-vous, il termine en disant ce pourquoi. Je me plais dans les faiblesses. Oh, ça c'est un slogan à contre-courant, oui ou non? Qui oserait dire je me plais dans mes faiblesses lorsque mon honneur est traîné dans la boue, lorsqu'on m'insulte, lorsqu'on me traite de tout, lorsque malgré tout ce que je fais, personne ne le reconnaît. Il y en a même qui prennent le produit de mon travail, qui vont le présenter comme si c'était le leur. Et quand ça arrive entre les mains de tel ou tel autre responsable, ce sont eux qui sont remerciés, alors que tu sais très bien que c'est toi qui as passé des nuits et des nuits. Eh bien, Paul dit, je me plais dans ses faiblesses. Je me plais dans les outrages, dans les privations. Oui, je n'ai plus de voiture pendant un temps, mais puisque je dois aller à l'église, eh bien, je vais me mettre sur la route pour prendre la moto. Et juste au moment où vous vous mettez sur la route, il y a certains qui travaillent avec vous qui passent. Seigneur, c'est pas possible. Vous commencez à vous cacher. Quand vous voyez une Jeep noire qui arrive, vous regardez un peu à côté, là. Mais il n'y a pas de moustique là où vous êtes. C'est simplement une manière pour qu'on ne vous reconnaisse pas. Ça fait mal. Mais Paul dit, quand je me retrouve dans cette situation, alors je me réjouis. Dans les persécutions, au lieu de me plaindre, Seigneur, pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu les fais? Pourquoi tu laisses ces incirconcis s'attaquer à moi? Pourquoi tu laisses les gens traîner mon honneur dans la boue? Pourquoi on me persécute? Je n'ai rien fait. Au lieu de se plaindre, si c'est comme ça, il y en a même qui font du chantage au Seigneur. Si c'est comme ça, j'abandonne. Mais si tu abandonnes, mon ami, tu vas te retrouver dans le bras du diable. Et il va saisir l'occasion pour t'achever. Non, ne te rebelle pas. Réjouis-toi comme Paul. Je me plais dans les persécutions, dans les angoisses. Voyez-vous, voir quelquefois, oui, la paix du Seigneur, il faut qu'on soit en paix. Qui parle ici? Qu'est-ce que c'est une angoisse? La crainte, mais pour Christ, alléluia. Est-ce que l'église que j'ai laissée à Corinthe, je viens d'entendre des choses, qu'il y a des divisions? Seigneur, comment est-ce possible? Il angoisse. Que l'ennemi ne puisse pas profiter de l'occasion pour les dresser les uns contre les autres, pour détruire ce travail. J'ai passé du temps à Corinthe pour les exhorter. D'autres sont passés après moi, comme Apollos, comme Pierre. Comment expliquer qu'aujourd'hui ils se retrouvent à appartenir à différents camps, au point où certains disent, moi je suis de Pierre, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Tout cela, mes amis, vous pensez qu'il était là dans la... Oh, la paix du Seigneur est avec moi, alléluia. Il pleurait. Mais tout cela dans les angoisses pour Christ. Et il termine. Et je terminerai là aussi. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis... Mes amis, toutes ces situations difficiles, toutes ces faiblesses, ont fini par briser l'apôtre Paul. Ont fini par l'amener dans un état que Dieu aime, le brisement. C'est-à-dire le moi quitte son trône et laisse toute la place à Jésus. C'est-à-dire le moi va se mettre aux pieds du Seigneur. Et désormais c'est Jésus qui est assis sur le trône. C'est Jésus qui compte tout pour lui, qui dirige tout. Lui il est là aux pieds. S'il doit aller quelque part, il dit Seigneur, est-ce dans ta volonté que j'aille? Vous voyez, le brisement. Mes amis, ce brisement avait fini par revêtir Paul d'humilité. Et cette humilité a enfin ouvert la porte, ouvert la voie qui conduit à l'expérimentation de la puissance de Dieu. Et à dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que la puissance du Seigneur repose sur moi. Lorsque les uns disent, oh, lui va terminer ainsi, toi tu crois vraiment que dans ce contexte, il va émerger? Non, comment? En analysant la situation, en regardant ceci, Nous ne voyons pas comment il va sortir de son trou. Nous ne voyons pas comment il peut arriver même à terminer cette année. Oui, accepte tout cela. Ce n'est pas à eux de décider. Ils ne décideront jamais pour toi. Mais celui qui est avec toi est celui qui tient toutes les circonstances dans sa main. La Bible nous le dit que le Seigneur contrôle tout. Même le cœur du roi est dans sa main comme un courant d'eau qu'il incline là où il veut. Alléluia. Alors mon frère, réjouis-toi dans les persécutions que tu connais. Ma sœur, réjouis-toi dans cette situation difficile où tu pleures, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je deviendrai demain? Le Seigneur le sait. Alors, ne charge personne. N'essayez pas de trouver un bouc émissaire. Voyez-vous sur qui jeter la responsabilité? Continue à louer le Seigneur et à dire, Seigneur, c'est toi qui m'as amené là. Et tout ce que je suis en train de vivre, eh bien, c'est parce que je suis là où tu veux. Alors, puisque je suis là où tu me veux, donc dans ta volonté, alors donne-moi seulement la force de continuer à persévérer et à proclamer que c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Acclamons le nom du Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Peu importe, Seigneur, le chemin par lequel tu nous fais passer, peu importe le contexte dans lequel nous nous trouvons, contexte de persécution, de rejet, de mépris, de moquerie de la part des collègues ou même des gens de la famille, contexte, Seigneur, où nous sommes outragés. Nous sommes comme dans un trou à ras, comme dans un trou noir. Nous regardons autour de nous, Seigneur, aucun horizon, tout est bouché. Mais ce matin, tu m'as parlé, tu nous as parlé. Alors aide-nous, Seigneur, à rester confiant en toi, à rester attaché à toi, à savoir que c'est dans la faiblesse que ta force se manifeste. C'est dans la faiblesse que ta puissance se manifeste en nous et au travers de nous. Alors donne-nous de persévérer, de te faire confiance jusqu'au bout. Merci Seigneur pour tout. Merci aussi pour ce moment. Seigneur, où nous allons faire passer les paniers pour récolter au Dieu les offrandes, les dîmes et autres libéralités. Que tu bénisses, Seigneur, tout cela, afin que tout cela serve à ta gloire. Merci Jésus. Amen.